Chapitre 33. Les intellectrons. 85 000 heures trisolariennes, environ 8,6 années terrestres plus tard. Le chancelier convoqua une réunion de crise de tous les consuls de Trisolaris. C'était très inhabituel. Il devait s'être passé quelque chose de grave. 20 000 heures trisolariennes plus tôt, la flotte trisolarienne avait mis les voiles. Les vaisseaux avaient une idée approximative de la direction dans laquelle se trouvait leur destination, mais ils ignoraient sa distance. Il se pouvait que cette cible soit à des millions d'années-lumière de là, peut-être même à l'autre extrémité de la galaxie. Face à cette mer infinie d'étoiles, les chances de succès de l'expédition étaient très faibles. La réunion des consuls se tenait sous le mémorial du pendule. À la lecture de ce passage du rapport, Huang Miao ne put s'empêcher de s'imaginer mentalement le siège des Nations Unies dans les trois corps. Le mémorial du pendule était l'un des rares éléments du jeu à exister réellement sur Trisolaris. Le choix du lieu pour cette réunion avait plongé la plupart des consuls dans la perplexité. L'air chaotique n'était pas encore terminé. Un petit soleil venait tout juste de se lever à l'horizon, mais il pouvait se recoucher à tout moment. Il faisait monstrueusement froid, si bien que tous les participants étaient contraints de porter des combinaisons électrothermiques imperméables. L'énorme balancier métallique du pendule oscillait majestueusement, fendant l'air glacial, tandis que le petit soleil projetait de longues ombres sur le sol, comme si un géant à la silhouette imposante était en train de le fouler à grandes enjambées. Sous les yeux de la foule, le chancelier marcha jusqu'au socle du pendule, pressa un interrupteur rouge, puis il se tourna vers les consuls. « Je viens d'éteindre l'alimentation qui permettait le mouvement du pendule. Il s'arrêtera lentement sous l'effet de la résistance de l'air. »«
Chancelier, pourquoi ?» demanda un consul.
« Nous connaissons tous le rôle historique du pendule. Il était utilisé pour endormir Dieu. Mais nous savons désormais qu'il est préférable pour la civilisation trisolarienne que Dieu soit éveillé, car il est maintenant avec nous. » Tout le monde garda le silence, méditant sur le sens des paroles du chancelier. Après encore trois mouvements de balancier du pendule, quelqu'un demanda. « La Terre a-t-elle répondu ?» Le chancelier hocha la tête. « Oui. J'ai reçu le rapport il y a une demi-heure. Une réponse au message d'avertissement. »
« Si vite ? Cela fait à peine plus de 80 000 heures que l'avertissement a été envoyé, ce qui veut dire...
Ce qui veut dire...
Ce qui veut dire que la Terre se trouve à une distance de 40 000 heures-lumière de Trisolaris.
Mais n'est-ce pas la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche ?
Oui. C'est ce que je disais. Dieu est avec Trisolaris. »
Une euphorie s'empara de la foule, mais aucun ne pouvait l'exprimer et tous durent refouler cette éruption de joie. Le chancelier savait qu'il était dangereux de laisser déborder ses émotions, c'est pourquoi il s'empressa d'asperger ce volcan avec un seau d'eau glacée.
« J'ai donné l'ordre à la flotte de faire route vers cette étoile, mais je ne suis pas aussi optimiste que vous le croyez. D'après les informations dont nous disposons, notre flotte vogue en réalité vers sa propre tombe. »
Les paroles du chancelier tempérèrent aussitôt l'enthousiasme des consuls.
« L'un d'entre vous comprend-il la raison de cette réserve ?»«
Je comprends, » dit le consul de la science.
« Nous avons étudié en détail les premiers messages envoyés par la Terre. Une section a particulièrement retenu notre attention, son histoire. Voilà quels sont les faits. Les humains ont mis quelques dizaines de milliers d'années terrestres pour passer de l'âge des chasseurs-cueilleurs à l'âge de l'agriculture. Quelques milliers d'années de l'âge de l'agriculture à celui de l'industrie. Et seulement 200 années terrestres pour passer de l'âge industriel à l'âge de l'atome. Enfin, ils ont atteint l'âge de l'information en seulement quelques dizaines d'années terrestres. Cette civilisation possède le terrifiant pouvoir d'accélérer son évolution. Sur Trisolaris, aucune de nos 200 civilisations, y compris la nôtre, n'a jamais connu un développement aussi rapide. Tous les progrès scientifiques et économiques de la civilisation trisolarienne se sont faits à un rythme constant, voire en ralentissant peu à peu. Dans notre monde, chaque nouvel âge technologique nécessite de s'inscrire sur un temps d'évolution long.
Le chancelier acquiesça.
La réalité est que, dans 4 millions et 500 000 heures, lorsque la flotte trisolarienne atteindra le système solaire, le niveau de technologie de la civilisation terrienne aura largement surpassé le nôtre. Durant son long périple, notre flotte devra traverser 2 ceintures de poussière interstellaire. Nous aurons sûrement de grandes pertes à déplorer et nous craignons que seule la moitié de la flotte ne parvienne à rejoindre le système solaire saine et sauve. Le reste aura sombré durant la traversée. La flotte sera alors à la merci des ripostes terriennes. Nous ne partons pas en conquête, nous naviguons vers notre propre mort.
Si cela est vrai, chancelier, il y a encore plus effrayant, commença le consul de la guerre.
Oui, c'est simple à imaginer. Nous avons révélé notre position. Pour parer à des menaces futures, la flotte terrienne contre-attaquera. Et peut-être qu'avant même que notre planète soit engloutie par un soleil dilaté, les terriens auront déjà réduit la civilisation trisolarienne en cendres. L'avenir si brillant qui s'était ouvert quelques instants plus tôt s'était tout à coup assombri, plongeant l'assemblée dans un long silence. Voici ce que nous devons faire. Freiner le progrès de la science sur Terre. Dès la réception de la première série de messages terriens, nous avons immédiatement commencé à élaborer des plans allant dans ce sens. Les conditions sont maintenant favorables à la mise en œuvre de ces plans. La réponse que nous venons de recevoir a été envoyée par un traître terrien. Nous avons des raisons de croire qu'il existe dans la civilisation terrienne des forces aliénées qu'il nous faut exploiter.
Chancelier, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nos communications avec la Terre ne tiennent qu'à un fil. Il est nécessaire d'attendre 80 000 heures avant que l'un réponde à la question de l'autre.
Voyons plus loin. Lorsque le monde terrien apprendra l'existence d'une autre civilisation dans l'univers, l'impact sur la société dans son ensemble sera énorme et laissera des marques profondes. Nous pensons que les forces aliénées de la Terre s'uniront et croîtront au fil du temps.
Que seront-elles en mesure de faire? Des actes de sabotage?
Étant donné les 40 000 heures qui nous séparent, les stratégies de guerre ou les actes terroristes traditionnels n'auraient que des conséquences limitées, car les humains pourraient facilement s'en remettre. Sur un temps long comme celui-ci, il est nécessaire d'enrayer efficacement le progrès de la civilisation humaine et de les désarmer pour de bon. Pour cela, il n'existe qu'une seule solution. Tuer leur science. J'invite le consul de la science à vous présenter dans les grandes lignes les 3 plans que nous avons choisi d'adopter.
Le premier de ces 3 plans a pour nom de code « feuillage », expliqua le consul de la science.
Nous exploiterons les contre-effets néfastes de la technologie pour susciter au sein de la population humaine une peur et une haine de la science. En effet, sur Terre aussi, l'évolution technologique s'accompagne de graves problèmes environnementaux. Le deuxième plan, miracle, consiste à créer sur Terre des miracles qui apparaîtront surnaturels aux terriens. À travers cette série de prodiges, l'objectif est de fabriquer de toutes pièces un univers dont la science humaine sera incapable d'expliquer la logique. Lorsque ces illusions se seront bien enracinées, la civilisation trisolarienne y deviendra peut-être l'objet d'un dévouement religieux. Et alors, les méthodes de pensée non scientifiques prendront le pas sur les réflexions de la science, entraînant l'implosion de tout le système de pensée scientifique établi.
Comment créerons-nous des miracles?
La clé de la réussite de ces miracles est que les terriens ne soient pas en mesure de les comprendre rationnellement. Il nous sera peut-être nécessaire de transférer certaines de nos technologies avancées aux forces humaines aliénées.
C'est bien trop dangereux.
Et si ces technologies tombaient entre de mauvaises mains, c'est jouer avec le feu.
Naturellement, une étude préliminaire sera menée pour évaluer le niveau de technologie qu'il sera possible de transférer.
Que le consul de la science s'arrête un instant,
dit le consul de la guerre en se levant devant ses pairs.
Chancelier, à mon avis, ces deux plans ne seront d'une efficacité que très limitée si nous souhaitons causer la mort de la science humaine.
Certes, mais c'est toujours mieux que rien, approuva le consul de la science, avant même que le chancelier ait pu répondre.
Si peu,
laissa tomber le consul de la guerre sur un ton dédaigneux.
Je suis d'accord avec vous, dit le chancelier. Les plans feuillage et miracle ne provoqueront que quelques interférences minimes dans le développement de la science terrienne.
Puis il se tourna vers ses autres collègues.
Ce dont nous avons besoin en priorité, c'est d'une action forte qui étouffera toute la science sur la planète Terre et la verrouillera à son niveau actuel. Concentrons-nous maintenant sur l'élément clé de cette action. Le développement global de la technologie repose sur le progrès des sciences fondamentales. Et la base des sciences fondamentales est l'exploration de la structure profonde de la matière. Sans avancer dans ce domaine, ni la science ni la technologie ne connaîtront de bons décisifs. Ce n'est d'ailleurs pas seulement vrai pour la civilisation sur Terre. Cela s'applique à toutes les autres cibles que la civilisation trisolarienne souhaiterait un jour conquérir. Avant même d'avoir reçu le premier message terrien, nos scientifiques avaient déjà travaillé sur cette question. Nous nous sommes récemment contentés d'accélérer ces efforts. À présent, levez les yeux. Que voyez-vous ?
Le chancelier pointa le ciel. Les consuls virent dans l'espace un anneau sur lequel le soleil faisait briller des reflets métalliques.
N'est-ce pas l'atelier dans lequel est en train d'être fabriquée la deuxième flotte spatiale ?
Non, c'est un accélérateur de particules géants en construction.
Nous avons annulé le projet de construction d'une deuxième flotte et alloué son budget au projet Intellectron.
Le projet Intellectron ?
Oui. Ce plan a été tenu secret, c'est pourquoi la plupart d'entre vous n'ont pas été mis au courant. Le consul de la science va vous en présenter la teneur.
J'ai eu vent de ce projet, mais je n'imaginais pas qu'il était aussi avancé, dit le consul de l'industrie.
J'en avais vaguement entendu parler, mais je pensais que c'était une légende, ajouta le consul de la culture et de l'éducation.
Pour le résumer en quelques mots, le projet Intellectron consiste à transformer un proton en un ordinateur super intelligent,
commença le consul de la science.
C'est un fantasme bien connu de la science, fit remarquer le consul de l'agriculture.
Je suis étonné d'apprendre si brusquement qu'il est sur le point de se réaliser. Je sais que nos physiciens sont maintenant en mesure de manipuler 9 des 11 dimensions du monde microscopique, mais il est difficile d'imaginer qu'ils puissent insérer une pincette dans un proton pour y graver des circuits intégrés.
C'est bien entendu impossible. Graver des micro-circuits intégrés ne peut se faire qu'à une macro-échelle et uniquement sur un plan macroscopique à 2 dimensions. Pour cela, nous devons déployer le proton en 2 dimensions.
Déployer une structure de 9 dimensions en 2 dimensions ?
Mais de quelle taille serait sa surface ?
Une surface gigantesque, comme vous allez le voir, dit le consul de la science dans un sourire.
Le temps fila. 600 000 heures trisolariennes s'écoulèrent. 200 000 heures après que le grand accélérateur spatial de particules fut achevé, le proton allait être déployé sur une orbite synchrone autour de Trisolaris. C'était une journée ensoleillée d'une ère régulière. Le ciel était particulièrement clair. Comme 83 000 heures plus tôt, lors du départ de la première flotte, toute la population de Trisolaris se trouvait sur la plaine. Elle regardait, les yeux en l'air, l'immense anneau spatial. Le chancelier et les consuls se réunirent une nouvelle fois sous le mémorial du pendule. Celui-ci avait cessé de se balancer depuis longtemps, et son poids ressemblait à un grand bloc de roche fermement maintenu entre 2 supports de fixation, comme un symbole de stabilité. Il était difficile de croire qu'il avait un jour été en mouvement. Le consul de la science donna l'ordre de commencer le déploiement en deux dimensions. Dans l'espace, trois cubes planaient autour de l'anneau, les trois générateurs électriques fournissant l'énergie à l'accélérateur. Leurs dissipateurs thermiques en forme d'ailes se mirent peu à peu à briller d'une lueur rougeâtre. Le consul de la science informa le chancelier que le processus de déploiement avait débuté. La foule scrutait avec anxiété l'accélérateur spatial, mais rien ne semblait se passer. Un dixième d'heure trisolarienne plus tard, le consul de la science mit un casque sur ses oreilles, puis il dit « Chancelier, veuillez m'excuser, je crains que le déploiement n'ait échoué. Le proton a été réduit à une dimension de trop. Il est maintenant unidimensionnel. »
Unidimensionnel ? C'est une ligne ?
Oui, une ligne filiforme et infinie. Théoriquement, sa longueur doit être de 1,5 années-lumière.
Quelle gabegie ! Grommela le consul de la guerre. Nous avons dépensé le budget d'une flotte spatiale pour ça ?
Dans une expérience scientifique, un processus d'adaptation est toujours nécessaire. Après tout, ce n'est que notre première tentative de déploiement.
La foule se dispersa, déçue. Cependant, l'expérience n'était pas terminée. On imaginait au début que le proton unidimensionnel tournerait à jamais en orbite synchrone autour de la planète. Or, la résistance générée par une éruption solaire avait ralenti son mouvement, et des morceaux de la ligne chutèrent dans l'atmosphère. 6 heures trisolariennes plus tard, les trisolariens qui se trouvaient à l'extérieur remarquèrent d'étranges bandeaux de lumière autour de l'anneau. Des éclairs filamenteux et fugaces qui disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus. Ils apprirent rapidement dans les journaux que c'était le proton unidimensionnel qui, sous l'effet de la gravité, était tombé sur la surface. La ligne avait beau être infiniment fine, elle produisait un champ d'énergie capable de réfléchir la lumière visible et pouvait donc être perçue. C'était la première fois qu'il était possible de voir à l'œil nu une entité de matière n'étant pas constituée d'atomes, les minuscules parties d'un seul et même proton.
« Ces petites choses m'agacent, » dit le chancelier en agitant sa main devant son visage.
Le consul de la science et lui se tenaient debout sur les larges marches du palais gouvernemental.
« J'ai sans cesse une impression de picotement sur le visage. »
« Chancelier, c'est l'effet de votre imagination, car la somme de toutes ces cordes a la masse d'un seul proton. Celles-ci n'ont absolument aucun effet sur le monde macroscopique. Elles sont tout à fait inoffensives. C'est comme si elles n'existaient pas. »
Cependant, les morceaux de protons qui tombaient du ciel se faisaient de plus en plus denses. Non loin de la surface, l'air était gorgé de minuscules cordelettes lumineuses, si bien que le soleil et les étoiles paraissaient entourés de cercles en velours argenté. Les morceaux de protons unidimensionnels recouvraient le corps des trisolariens qui se trouvaient à l'extérieur, et ceux-ci traînaient en marchant de petites lumières derrière eux. Quand ils retournaient chez eux, les cordes se mettaient à scintiller sous les sources de lumière artificielle. À peine bougeaient-ils que le reflet des cordes révélait autour d'eux les courants d'air perturbés par leur mouvement. Bien que ces cordes soient sans danger et ne puissent être détectées qu'à la lumière visible, elles suscitèrent rapidement l'agacement de la population. La pluie de cordes unidimensionnelles dura plus de 20 heures trisolariennes avant de s'arrêter, mais pas parce qu'elles étaient toutes tombées sur le sol. Bien que leur masse soit incroyablement faible, elles en avaient tout de même une, et leur accélération sous la force de gravité était la même que pour des objets normaux. Cependant, en entrant dans l'atmosphère, elle se retrouvait à la merci des courants d'air et ne tombait plus sur le sol. Après avoir été déployée en une dimension, les interactions fortes à l'intérieur du proton s'étaient grandement affaiblies, fragilisant les cordes et les brisant progressivement en petits fragments, si bien que la lumière qu'elles reflétaient n'était plus visible. La population avait l'impression qu'elles avaient disparu, mais la poussière de cordes unidimensionnelles flotterait dans l'air de Trisolaris pour l'éternité.
50 heures trisolariennes plus tard eut lieu une deuxième tentative de déploiement du proton en deux dimensions. Cette fois,
La foule rassemblée sur la plaine distingua quelque chose. Lorsque les dissipateurs thermiques commencèrent à rougir, surgirent soudain près de l'accélérateur des objets gigantesques à l'apparence de formes géométriques très régulières, sphères, tétraèdres, cubes, cônes, etc. Leur surface possédait une palette complexe de couleurs. Toutefois, en les observant bien, on pouvait remarquer que celles-ci étaient en fait incolores, mais qu'elles étaient en revanche totalement réflexives. Ce que l'on y voyait étaient les images déformées du monde de Trisolaris, telles que les reflétaient les formes géométriques. « Avez-vous réussi cette fois ?» demanda le chancelier. « Le proton a-t-il été déployé en deux dimensions ?»«
Malheureusement, chancelier, c'est encore un échec. Nous venons de recevoir un rapport du centre de contrôle de l'accélérateur. Le proton a cette fois été déployé en trois dimensions. »
Les gigantesques formes géométriques réflexives continuaient à jaillir de l'accélérateur à un rythme rapide et s'en éloignaient en planant. Les formes étaient de plus en plus variées. On voyait maintenant des tores et des croix en trois dimensions, et même un objet qui ressemblait à un ruban de Mébius. Environ une heure et demie plus tard, les formes avaient complètement envahi le ciel, comme si un enfant de géant avait renversé des blocs de construction sur la voûte céleste. Les reflets du soleil sur les formes géométriques doublèrent l'intensité lumineuse de la surface, et elles se mirent à scintiller. L'ombre colossale du pendule apparaissait et disparaissait sans cesse, clignotant un coup à gauche, un coup à droite. Puis, tous les objets commencèrent à changer de forme. Celles-ci perdirent de leur régularité, on aurait dit qu'elles avaient fondu au soleil. Ces mutations devinrent de plus en plus soudaines et les formes de plus en plus sophistiquées. Ces objets célestes ne faisaient désormais plus penser à des blocs de construction, mais plutôt aux membres dépecés et aux viscères éventrés d'un géant. En raison de l'irrégularité des formes, la lumière qu'elles projetaient maintenant sur le sol s'était adoucie, mais les couleurs à leur surface étaient devenues encore plus étranges et imprévisibles. Dans ce ciel chaotique gorgé de formes géométriques tridimensionnelles, les observateurs au sol firent particulièrement attention à certaines d'entre elles, tout d'abord parce qu'elles étaient très similaires, puis, après un examen plus minutieux, on comprit ce qu'elles représentaient. Un frisson d'horreur parcourut le monde de Trisolaris. C'étaient des yeux. Nous ignorons à quoi ressemblent les yeux des Trisolariens, mais nous pouvons être sûrs d'une chose, n'importe quelle entité intelligente est sensible à la représentation des yeux. Le chancelier était l'un des seuls à garder véritablement son calme. Il demanda au consul de la science. Quel degré de complexité peut atteindre la structure interne d'une particule subatomique? Tout dépend le nombre de dimensions de notre perspective. Si on observe une particule subatomique avec une perspective unidimensionnelle, ce qui est le cas de la plupart des gens, ce n'est qu'un point. À une perspective bidimensionnelle ou tridimensionnelle, la particule commence à dévoiler sa structure interne. À une perspective quadridimensionnelle, la particule subatomique est déjà un monde immense. Immense. Incroyable qu'on puisse utiliser un tel mot pour qualifier une particule aussi petite que le proton, dit le chancelier. Le consul de la science ignora le chancelier et continua à parler, comme pour lui-même. Si nous passons à une dimension plus haute, le degré de complexité et le nombre de structures internes dans la particule augmenteront considérablement. Cette comparaison est très imprécise, mais voici une idée de ces différences d'échelle. Une particule observée à une perspective en sept dimensions possède la complexité du système stellaire trisolarien en trois dimensions. À une perspective en huit dimensions, la particule est aussi vaste que la Voie lactée. À neuf dimensions, la complexité et le nombre de structures internes sont presque équivalents à l'univers tout entier. Et pour ce qui est des dimensions supérieures, nos sciences physiques ne sont pas encore en mesure de les appréhender, et nous ne pouvons pas encore mettre de mots sur leur complexité.
Le chancelier pointa les yeux immenses qui flottaient dans le ciel.
Ce spectacle ne prouve-t-il pas, une fois déployé, que l'univers microscopique d'un proton abrite une vie intelligente?
Notre conception de la vie dans le monde macroscopique n'est peut-être pas applicable au monde microscopique. Pour être plus exact, nous pouvons simplement dire qu'il existe de l'intelligence ou de la sagesse dans cet univers. C'est peut-être ce que les scientifiques avaient prédit depuis longtemps. Il serait étonnant qu'aucune forme d'intelligence n'ait émergé dans un univers aussi vaste et complexe.
Pourquoi des yeux qui nous regardent ?
Le chancelier leva la tête. Les yeux étaient de superbes sculptures, belles et réalistes à la fois. Ils observaient la planète d'en dessous avec un regard mystérieux.
Peut-être simplement pour nous indiquer leur existence.
Ces choses vont-elles nous tomber dessus ?
Non, rassurez-vous, chancelier. Et même si elles venaient à tomber, tout comme les corps unidimensionnels, la masse globale de ces énormes objets est la même que celle d'un proton. Leur chute n'aurait aucun impact sur nous. Il faudra simplement que la population s'habitue à cet étrange paysage.
Mais cette fois-ci, le consul de la science se trompait. La foule avait remarqué que, parmi tous les objets en trois dimensions qui emplissaient le ciel, ceux sous forme d'yeux bougeaient à une vitesse nettement plus rapide que les autres, et ils convergeaient de plus vers un même point. Très vite, deux yeux se télescopèrent et ne firent plus qu'un. La fusion des deux formes avait toujours celle d'un œil, mais son volume avait augmenté. D'autres yeux fusionnèrent de la même manière avec cet œil, augmentant sans cesse son volume. Enfin, tous les yeux s'agglutinèrent pour n'en former qu'un seul, si énorme qu'il semblait représenter l'univers lui-même en train d'observer Trisolaris. Sa pupille était claire et lumineuse, et reflétait en son centre un soleil, tandis que sur sa vaste cornée tombait un déluge de couleurs différentes. Bientôt, les contours de la pupille commencèrent à s'effacer, puis finirent par disparaître. L'immense œil devint alors un œil aveugle et sans pupille. Il se mit à changer d'aspect jusqu'à perdre l'apparence d'un œil et devenir un cercle parfait. Quand ce cercle commença à bouger, la foule découvrit que celui-ci n'était pas plat, mais parabolique, comme un morceau coupé dans une énorme sphère. Le consul de la guerre regarda l'objet se déplacer lentement. Puis une lumière traversa son esprit et il s'écria
« Chancelier, et vous tous, vite, rentrez dans vos abris souterrains !»
Il pointa le ciel en disant
« C'est... »
« Un miroir, » conclut calmement le chancelier. « Donnez l'ordre à l'unité de défense aérienne de le détruire, nous resterons ici pour l'observer. » Le miroir parabolique avait commencé à refléter l'éclat des rayons solaires sur la surface de Trisolaris. Au début, la surface sur laquelle était projetée la lumière était très large, et la chaleur qu'elle générait n'était pas encore mortelle. Mais cette tache lumineuse se déplaça à la recherche de sa proie. Le miroir parabolique avait visiblement choisi la capitale, la plus grande ville de Trisolaris, car la tache de lumière s'en approcha et, bientôt, l'engloutit sous ses rayons. Sous le mémorial du pendule, la foule ne vit dans le ciel qu'une effusion de lumière, si intense qu'elle semblait tout avaler dans l'atmosphère. Ils furent submergés par une vague d'une extrême chaleur. La tache de lumière qui enveloppait la ville diminua de volume. Le miroir parabolique concentrait encore davantage les rayons du soleil. Dans l'espace, la luminosité se renforçait et empêchait la foule de lever la tête. Ceux qui se tenaient sous cette tache sentirent la température s'élever. Au moment même où la chaleur devenait insupportable, l'extrémité de la tache de lumière passa au-dessus du mémorial du pendule et tout s'obscurcit brusquement. Les gens mirent un certain temps avant de réadapter leurs yeux à la luminosité normale. En levant la tête, ils virent un pilier irradiant qui partait du sol et montait jusqu'au ciel, comme un cône inversé dont la base était constituée par le miroir parabolique, tandis que son sommet pointait vers le centre de la capitale, qui se retrouva baigné dans une blancheur incandescente. Des volutes de fumée tourbillonnantes s'élevaient dans les airs. Des tornades, provoquées par la chaleur inégale du cône de lumière,
firent se dresser des colonnes de poussière qui raillèrent le ciel en s'enroulant et en dansant autour du cône. Des boules de feu éblouissantes apparurent en différents endroits du miroir. Leur couleur bleue différait de celle reflétée par le miroir. C'étaient les ogives nucléaires envoyées par les forces de défense aérienne trisolarienne qui atteignaient leur cible. Les explosions ayant lieu au-delà de l'atmosphère, on n'entendait pas leur bruit. Quand les boules de feu s'éteignirent, de larges trous apparurent sur le miroir, puis sa surface commença à se fissurer jusqu'à ce qu'il éclate en une dizaine de morceaux. Au même moment, le mortel cône de lumière disparut et le monde retrouva sa luminosité d'origine. L'espace d'un instant, on se crut au clair de lune. Les fragments brisés du miroir, désormais amputés de toute intelligence, continuaient à se distordre. Très vite, ils fusionnèrent avec les autres objets spatiaux en trois dimensions et on ne les distingua plus.
« À quoi aurons-nous droit lors de votre prochaine expérience ?» demanda d'un air ironique le chancelier au consul de la science.
« Un proton déployé en quatre dimensions ?»«
Chancelier, même si cela devait arriver, ce ne serait pas un grand problème. Car s'il se déploie en quatre dimensions, le volume du proton sera bien plus petit. Si l'unité de défense aérienne est prête à passer à l'attaque, elle pourra détruire de la même manière sa projection dans le monde en trois dimensions.
Vous osez duper le chancelier ? Lança avec colère le consul de la guerre au consul de la science. Vous lui cachez le véritable danger ? Que se passera-t-il si le proton se déploie en zéro dimension ?
En zéro dimension ? Demanda le chancelier avec curiosité. Un point, mais sans taille ?
Oui, une singularité. Même un proton paraîtrait infiniment grand en comparaison. Toute la masse du proton serait dès lors contenue dans cette singularité, et sa densité serait prodigieusement grande. Chancelier, vous pouvez certainement imaginer ce qu'il deviendrait.
Un trou noir.
Oui.
Chancelier, expliqua le consul de la science. Si nous avons choisi de déployer un proton et non un neutron, c'est précisément pour éviter ce genre de risque. Si un déploiement en zéro dimension venait vraiment à se produire, la charge électrique du proton serait transférée au trou noir que le déploiement aurait créé, et nous serions en mesure de le capturer et de le contrôler grâce à la force électromagnétique.
Et si vous ne parvenez pas à le trouver ou à le contrôler, rétorqua le consul de la guerre. Il tomberait à la surface et augmenterait sa masse à mesure qu'il absorberait de la matière. Puis il sombrerait jusqu'au noyau de la planète et avalerait pour finir la totalité de notre monde.
Cela n'arrivera pas, je vous en donne ma parole.
Pourquoi êtes-vous sans cesse en train de me provoquer? Je vous l'ai dit, c'est une expérience scientifique.
Il suffit, dit le chancelier. Quelles sont les chances de succès de la prochaine expérience?
Près de 100%, chancelier, veuillez me croire. Grâce à ces deux échecs, nous avons maintenant compris comment maîtriser les principes de déploiement d'une particule subatomique à une dimension plus faible dans le monde macroscopique.
Soit. Pour la survie de Trisolaris, nous devons prendre ce risque.
Merci, chancelier.
Cependant, sache que si tu échoues la prochaine fois, toi et tous les scientifiques du projet Intellectron, vous serez coupables.
Oui, bien sûr, nous serons coupables.
Si les trisolariens avaient transpiré, le consul de la science aurait certainement passé sa main sur le front.
Il fut nettement plus facile de déblayer les restes du proton tridimensionnel, qui se trouvait maintenant en orbite synchrone autour de Trisolaris, que ça n'avait été le cas pour le proton unidimensionnel. Des petits vaisseaux les tractèrent jusqu'à une distance suffisamment éloignée de la planète pour éviter que les formes ne pénètrent dans l'atmosphère. Ces substances, aussi grandes que des chaînes de montagnes, n'avaient presque aucune masse, comme d'énormes ombres argentées que même un nouveau-né n'aurait eu aucune peine à déplacer. Le chancelier demanda plus tard au consul de la science.
Lors de cette expérience, n'avons-nous pas détruit la civilisation d'un univers microscopique ?
Sans doute au moins une entité intelligente, oui. De plus, chancelier, nous avons anéanti un univers entier.
un univers immense à l'échelle des dimensions les plus hautes, où il n'existait probablement pas qu'une seule forme d'intelligence ou de civilisation, mais celles-ci n'ont simplement pas eu l'occasion de se révéler dans le monde macroscopique. Bien entendu, à des dimensions aussi importantes et à des échelles si minuscules, il nous est absolument impossible d'imaginer la forme que prennent ces intelligences et ces civilisations. Elles n'ont rien en commun avec ce que nous connaissons, et ce genre de destruction ne s'est pas produit pour la première fois. Ah ? Dans la longue histoire de la science, combien de protons sont déjà entrés en collision dans les accélérateurs des physiciens ? Combien de neutrons et d'électrons ? Peut-être au moins une centaine de millions. Chaque collision s'est avérée être le génocide d'une intelligence ou d'une civilisation dans l'univers qui les contenait. En réalité, même dans la nature est orchestré à chaque instant ce genre de mise à mort. La désintégration des protons et des neutrons, par exemple, ou bien l'entrée dans l'atmosphère de rayons cosmiques de haute énergie qui peuvent détruire des milliers de micro-univers. Seriez-vous donc triste pour elle ?
Ce que tu dis est amusant. Je vais de ce pas rapporter cette information au consul de la propagande en demandant qu'il répande cette vérité scientifique dans la population afin de bien faire comprendre au peuple que des destructions de civilisations sont des événements somme toute ordinaires ayant lieu à chaque instant de la vie.
Pourquoi donc, chancelier ? Serait-ce pour que le peuple affronte avec courage la destruction prochaine de la civilisation trisolarienne ?
Non, pour qu'ils affrontent celle des humains. Comme tu le sais, lorsque nous avons annoncé ce que nous comptions faire de la civilisation terrienne, cela a suscité des sentiments pacifistes extrêmement dangereux. Ce n'est qu'alors que nous avons découvert qu'il existait en notre sein de nombreux individus comme le guetteur 1379. Nous devons contrôler et éliminer ces émotions vulnérables.
Chancelier, ce genre de sentiment a surtout été inspiré par la révélation du contenu des récents messages reçus.
Votre prédiction s'est réalisée. Les forces aliénées terriennes gagnent du terrain. Elles ont maintenant construit leur propre site de transmission, entièrement autonome, et ont commencé à nous envoyer une grande quantité d'informations sur la civilisation terrienne. Je dois admettre que cette culture possède un pouvoir de séduction dangereux. Notre peuple croit entendre un chant sacré venu du paradis. Les idées humanistes des terriens risquent d'égarer les esprits de beaucoup d'entre nous. Sur Terre, notre civilisation a donné naissance à une sorte de religion. Mais le risque existe aussi que cela se produise dans le sens inverse, sur Trisolaris.
Tu pointes là un grand danger. Nous devons désormais veiller à ce que les informations concernant la Terre ne se propage plus, et en particulier celle concernant sa culture. La troisième tentative de déploiement en deux dimensions d'un proton eut lieu 33 heures trisolariennes plus tard, durant la nuit. En observant l'accélérateur de particules spatiales depuis la surface, on ne distinguait que le halo rouge des dissipateurs thermiques des générateurs électriques, qui permettait de révéler sa position. Peu de temps après la mise en route de l'accélérateur, le consul de la science annonça la réussite de l'opération. La foule leva les yeux au ciel. Elle ne vit tout d'abord rien, mais très vite, elle eut une vision prodigieuse. Le ciel s'était scindé en deux. Entre les deux morceaux, les motifs des étoiles ne correspondaient pas. On aurait dit deux photographies du ciel placées l'une sur l'autre, la plus petite sur la plus grande. La voie lactée était coupée au niveau de leur frontière commune. Un des morceaux du ciel était circulaire et s'étendait rapidement sur le fond étoilé du firmament ordinaire.
Cette constellation est celle que l'on peut observer dans l'hémisphère sud, s'exclama le consul de la culture et de l'éducation, en pointant du doigt le morceau circulaire du ciel en train de s'agrandir.
Alors que la foule tentait de faire marcher son imagination en essayant de comprendre comment les étoiles de l'hémisphère sud pouvaient maintenant se superposer à celles de l'hémisphère nord, elle assista à un spectacle encore plus étonnant.
aux extrémités du morceau de ciel de l'hémisphère sud, apparut le fragment d'un énorme globe. De couleur brune, le globe se dévoilait à une vitesse très lente, comme une image numérisée sur un écran. Tous connaissaient ce globe, car ils avaient reconnu à sa surface des motifs familiers. Lorsque l'image du globe fut entièrement révélée, celui-ci occupait déjà un tiers du ciel et les détails de sa surface étaient maintenant limpides. On voyait des continents bruns traversés de chaînes de montagnes, elles-mêmes surmontées de nuages blancs comme une couche de neige éternelle. C'est alors que quelqu'un lâcha enfin « C'est notre planète ?» Oui, un autre monde de Trisolaris était apparu dans l'espace. Puis le ciel s'éclaircit. Près du second Trisolaris, dans l'espace, émergea sur la constellation d'étoiles de l'hémisphère sud l'image d'un soleil, manifestement le même astre qui éclairait en ce moment l'hémisphère sud, bien que celui-ci ne fasse qu'environ la moitié de sa taille. Quelqu'un perça enfin le mystère de ce phénomène. « C'est un miroir !» L'immense miroir qui était apparu au-dessus de Trisolaris était le proton en train de se déployer en deux dimensions. C'était maintenant une surface géométrique parfaitement plane, sans aucune épaisseur. Lorsque le déploiement en deux dimensions fut achevé, le firmament était entièrement enrobé par le reflet du ciel de l'hémisphère sud. Au zénith de celui-ci se trouvaient les reflets de la planète Trisolaris et d'un soleil. Puis le ciel autour de l'horizon se déforma et le reflet des étoiles s'étira et se distordit, comme si elles fondaient goutte par goutte. Cette déformation se prolongea petit à petit depuis les extrémités de la voûte jusqu'à son centre.
Chancelier, la surface du proton se déforme sous l'influence de la gravité de notre planète, expliqua le consul de la science. Puis il désigna les nombreuses lumières qui venaient d'apparaître dans le ciel, comme si des individus agitaient des torches pour éclairer le sommet de la voûte.
Ce sont des rayons électromagnétiques artificiels émis à partir du sol, dont l'objectif est d'ajuster la courbure de la surface déformée par la gravité. Ainsi, la surface plane du proton pourra complètement envelopper notre planète. Après quoi, l'émission des rayons électromagnétiques se prolongera pour continuer à maintenir et à stabiliser cette sphère, comme les rayons d'une roue. La planète Trisolaris devient un établi permettant de préserver l'équilibre de ce proton bidimensionnel. La gravure de circuits intégrés sur sa surface pourra alors commencer.
Une longue période s'écoula avant que le proton bidimensionnel finisse par envelopper la planète. Lorsque la déformation du reflet de la planète Trisolaris atteignit le zénith du ciel, les étoiles avaient complètement disparu, car la surface plane du proton, qui s'était maintenant courbée jusqu'à l'autre côté de la planète, avait tout recouvert. Des rayons solaires pénétrèrent encore un certain temps à l'intérieur de la courbe plane du proton, et on ne reconnaissait déjà plus le monde de Trisolaris sur le miroir déformant de l'espace. Mais lorsque le dernier rayon disparut, tout se retrouva plongé dans une obscurité infinie. Ce fut la nuit la plus noire de toute l'histoire de Trisolaris. Sous l'équilibre de la gravité de la planète et grâce au maintien des rayons électromagnétiques, la surface plane du proton bidimensionnel forma une gigantesque coquille sphérique autour de Trisolaris, avec laquelle elle était en orbite synchrone. Un froid glacial s'abattit sur le monde. La surface parfaitement réflexive du proton dévia plus loin dans l'espace les rayons chauds des soleils qui descendaient vers la planète. La température sur Trisolaris chuta à un degré comparable à celui correspondant à l'apparition de trois étoiles volantes, phénomène qui avait détruit nombre de civilisations par le passé. La population trisolarienne fut déshydratée et entreposée dans les silos de déshydratation. Un silence de mort enveloppa les ténèbres. Dans l'espace ne restait plus que les faibles lueurs vacillantes des rayons électromagnétiques, dont la tâche était de maintenir stable la gigantesque membrane. On pouvait voir de temps à autre quelques lumières en orbite, celles des vaisseaux en train de graver des circuits intégrés à la surface du proton. Les principes régissant les circuits intégrés microscopiques n'étaient pas les mêmes que ceux des circuits traditionnels, car
La surface sur laquelle ils étaient gravés étant celle d'un proton, le matériel utilisé ne pouvait pas être constitué d'atomes. Les jonctions PN des circuits étaient créées grâce à une déformation des interactions fortes de sa surface, et les fils conducteurs étaient obtenus grâce aux maisons transportant la force nucléaire. La surface sur laquelle devait être gravé le circuit intégré étant immense, sa taille à l'échelle macroscopique était elle aussi démesurée. Les lignes des circuits avaient l'épaisseur de cheveux et il était possible de les voir à l'œil nu en s'en approchant. En survolant de près la surface du proton, on pouvait découvrir une vaste plaine sillonnée de gracieux et complexes circuits intégrés. La surface totale occupée par les circuits était des dizaines de fois plus grande que la surface totale des continents de Trisolaris qu'elle enveloppait. La gravure des circuits intégrés sur le proton était un projet titanesque. Plus de 1000 vaisseaux travaillèrent d'arrache-pied durant 15 000 heures trisolariennes avant d'achever leur tâche. La mise au point des logiciels dura, elle, encore 5 000 heures trisolariennes supplémentaires. Et enfin, vint le moment de tester pour la première fois l'intellectron. Dans la salle de contrôle souterraine de l'intellectron, l'écran afficha la fin de la séquence d'autotest, puis la barre de progrès du processus du chargement. Enfin, sur le terminal bleu vide, apparut cette phrase. Micro-intelligence 2.10 chargée. Intellectron 1 en attente des instructions. Le consul de la science claironna.
Un intellectron est né. Un proton que nous avons doté d'intelligence. C'est l'entité d'intelligence artificielle la plus petite que nous puissions créer.
Mais de ce que nous en voyons maintenant, c'est plutôt la plus grande que nous ayons créée, dit le chancelier.
Chancelier, nous allons bientôt augmenter la dimension de ce proton. Il deviendra rapidement microscopique.
Le consul de la science s'installa devant le terminal et saisit une question.
Intellectron 1 ? Le programme d'ajustement dimensionnel est-il opérationnel?
Parfaitement opérationnel. Intellectron 1 peut démarrer à tout moment le programme.
Ajusté en trois dimensions.
Une fois l'instruction donnée, la membrane du proton bidimensionnel se contracta comme si une main géante déchirait le voile du monde, et presque en un instant, les rayons de soleil arrosèrent la Terre. Le proton se déploya en trois dimensions et devint une gigantesque sphère en orbite synchrone autour de Trisolaris. Elle paraissait de la taille de la Lune géante. Le proton se situait sur la face nocturne de la planète, mais les reflets des rayons du soleil sur sa surface miroitante changèrent la nuit en jour. Il faisait encore extrêmement froid et les Trisolariens éveillés ne pouvaient contempler la scène que depuis un écran de la salle de contrôle.
Ajustement en trois dimensions terminé. Intellectron 1 en attente des instructions.
Ajusté en quatre dimensions.
Dans l'espace, la sphère géante se mit à rétrécir jusqu'à prendre la taille d'une étoile volante. La nuit tomba une nouvelle fois sur la planète.
Chancelier, la sphère que nous voyons à présent n'est pas le vrai intellectron. Il s'agit simplement de sa projection dans le monde tridimensionnel. Dans la quatrième dimension, c'est un géant, tandis que notre monde est une feuille de papier fin en trois dimensions. Le géant se tient debout sur cette feuille et nous ne sommes en mesure de voir que l'endroit où son pied touche le papier.
Ajustement en quatre dimensions terminé. Intellectron 1 en attente des instructions.
Continuez l'ajustement jusqu'en six dimensions.
La sphère s'évanouit dans le ciel. « Quelle est la taille de l'intellectron à six dimensions ?» demanda le chancelier.
« Il a un rayon d'environ 5 cm, » répondit le consul de la science.
« Ajustement terminé. Intellectron 1 en attente des instructions. »«
Intellectron 1, pouvez-vous nous voir ?»«
Oui, je peux voir la salle de contrôle et chaque personne à l'intérieur. Je peux aussi voir les organes de chacun d'entre vous. » Et même les organes à l'intérieur de vos organes.
Que dit-il ? Demanda le chancelier intrigué.
Quand nous observons un espace tridimensionnel depuis la sixième dimension,
C'est comme si nous contemplions une peinture en deux dimensions. Il peut naturellement voir à l'intérieur de nous. Intellectron 1, entrez dans la salle de contrôle.
Il peut passer à travers le sol?
Pas à travers, chancelier. C'est plutôt comme s'il entrait dans notre dimension depuis une dimension plus élevée. Il est capable de pénétrer dans n'importe quel espace clos de notre monde. C'est encore une fois la même relation qu'entre notre monde tridimensionnel et une surface en deux dimensions. Nous pouvons tout à fait entrer dans un cercle tracé sur une feuille de papier, tandis qu'un objet bidimensionnel ne le pourra jamais, sauf en trouant ce cercle.
Quand le consul de la science eut terminé, une petite sphère à la surface réflexive apparut au milieu de la salle de contrôle, flottant dans l'air. Le chancelier s'approcha et vit à sa surface son reflet déformé.
« Ceci est donc un intellectron ?» demanda-t-il, impressionné.
« Chancelier, ce n'est que la projection dans un espace tridimensionnel d'un proton à six dimensions. »
Le chancelier tendit la main et comme il vit que le consul de la science ne l'en empêchait pas, il toucha l'intellectron. À peine l'eut-il effleuré que l'intellectron fut repoussé à une certaine distance. Le chancelier était déconcerté.
Ça a l'air très lisse. Il n'a que la masse d'un proton, mais bizarrement j'ai pu sentir une résistance sur ma main. Cette impression est due à l'effet de la résistance de l'air sur la sphère.
S'il passait à la 11e dimension, retrouverait-il sa taille de proton ? Le chancelier n'eut même pas le temps de finir sa phrase que le consul de la science cria avec angoisse à l'encontre de l'intellectron
« Attention, ceci n'est pas un ordre !»«
Intellectron 1 a compris. »«
Chancelier, si nous le faisions passer en 11e dimension, nous le perdrions à jamais. Si l'intellectron passe à la taille d'une particule subatomique ordinaire, ses senseurs internes et ses périphériques d'entrée et de sortie deviendront plus petits que la longueur d'onde du spectre électromagnétique, ce qui voudrait dire qu'il ne serait plus capable de percevoir le monde macroscopique et donc de recevoir nos ordres.
Mais il faudra bien, en fin de compte, lui redonner son apparence de particule subatomique.
Certes. Cependant, il nous faudra attendre la fabrication d'intellectrons 2, 3 et 4. Plusieurs intellectrons peuvent ensemble, grâce au principe de l'intrication quantique, structurer un système dans lequel ils seront capables de ressentir le monde macroscopique. Permettez que je prenne un exemple. Imaginons un noyau atomique constitué de deux protons. Tous deux interagissent et se meuvent en suivant des règles bien définies. Si, par exemple, les protons tournent sur eux-mêmes, ils doivent le faire dans un sens opposé l'un à l'autre. Lorsque ces deux protons sont extraits du noyau, peu importe la distance à laquelle ils se trouvent séparés, les principes régissant leurs interactions demeurent les mêmes. Si l'on change le sens de rotation d'un proton, l'autre changera immédiatement le sien pour répondre en conséquence, où qu'il soit. Quand deux protons sont transformés en intellectrons, ils forment donc une seule entité intriquée. Un ensemble plus vaste d'intellectrons forme quant à lui une formation intriquée. L'échelle de cette formation peut être ajustée à n'importe quelle taille. Elle peut donc recevoir les ondes électromagnétiques de n'importe quelle fréquence et percevoir l'ensemble du monde macroscopique. Bien entendu, les phénomènes quantiques permettant de structurer de telles formations d'intellectrons sont extrêmement complexes. Mon explication n'est qu'une simple analogie.
Les déploiements des trois protons suivants furent un succès dès leur première tentative. Le temps utilisé pour fabriquer ces intellectrons fut moitié moindre que pour intellectron 1. Après la création d'intellectron 2, d'intellectron 3 et d'intellectron 4, on parvint avec le même succès à reproduire les intrications quantiques évoquées par le consul de la science. Le chancelier et l'ensemble des consuls se réunirent une nouvelle fois au pied du mémorial du pendule. Au-dessus de leur tête flottaient les quatre intellectrons à six dimensions. Leur surface miroitante et cristalline reflétait le soleil levant. Cette scène rappela à ceux qui étaient présents les yeux tridimensionnels qui étaient apparus jadis dans le ciel de Trisolaris.
Formation intellectron ?
Ajusté en 11e dimension. »
Les 4 sphères disparurent.
« Chancelier, » expliqua le consul de la science. « Intellectron 1 et Intellectron 2 sont partis pour la Terre. Grâce à la base de données que nous avons stockée dans leurs circuits électroniques microscopiques, ils connaissent la nature de l'espace sur le bout des doigts. Ils sont capables de puiser de l'énergie dans le vide et, dans un temps très court, de se transformer en particules à haute énergie pour voguer à une vitesse proche de celle de la lumière. Cela paraît violer la loi de conservation de l'énergie, mais les intellectrons empruntent de l'énergie à la structure du vide. Cependant, le temps que ceux-ci mettront pour rendre l'énergie sera infiniment long. Il faudra attendre la désintégration du proton et nous ne serons pas loin, ce jour-là, de la fin de l'univers. Une fois sur Terre, la première mission des 2 intellectrons sera de localiser les accélérateurs de particules à haute énergie utilisés par les physiciens humains et de s'y dissimuler. Au niveau scientifique actuel des terriens, la méthode basique d'exploration de la structure profonde de la matière est de faire entrer en collision des particules de haute énergie avec des particules cibles à l'intérieur de ces accélérateurs. Lorsque ces particules se sont télescopées, des analyses sont menées sur les résultats de l'expérience et les scientifiques tentent d'en déduire des informations sur la structure profonde de la matière. Dans leurs expériences réelles, les particules cibles sont contenues dans des noyaux d'atomes. Or, un atome est quasiment vide. Si un atome était grand comme une salle d'opéra, son noyau serait une noix suspendue au milieu de la salle. Les collisions sont donc rares. La plupart du temps, une grande quantité de particules à haute énergie est dirigée pendant une longue période de temps vers la substance servant de cible, avant que la collision se produise. C'est un peu comme si on essayait de trouver une goutte de pluie d'une couleur légèrement différente dans un orage d'été. C'est une occasion donnée à l'intellectron de remplacer les particules cibles censées recevoir la collision. L'intellectron étant doté d'une grande intelligence, il peut, grâce aux intrications quantiques de sa formation, déterminer en un instant très court le chemin que vont suivre les particules accélérées, puis se placer à la position appropriée. Par conséquent, le degré de réussite d'une collision avec un intellectron est des millions de fois supérieur à celui d'une collision avec une particule cible habituelle. Lorsque l'intellectron sera touché, il fournira des résultats faux et chaotiques. Et même s'il arrive de temps en temps que la vraie particule cible soit touchée, les physiciens de la Terre ne pourront pas distinguer les résultats corrects de ceux manipulés par l'intellectron.
Mais ainsi, l'intellectron ne risque-t-il pas d'être détruit ?
Non. L'intellectron est déjà un élément de base structurant la matière, ce qui diffère fondamentalement de la matière du monde macroscopique. Un intellectron peut être fragmenté, mais il ne peut pas être détruit. Quand un intellectron est brisé en plusieurs morceaux, il produit en réalité d'autres intellectrons. Et ceux-ci continuent d'avoir entre eux les mêmes intrications quantiques. C'est comme si vous coupiez un aimant en 2, vous en obtiendriez 2 au lieu d'un. Si ces fragments d'intellectrons sont bien moins performants que l'intellectron d'origine, sous le commandement du logiciel de réparation intégré à celui-ci, les fragments se réassembleront en une seule entité pour redevenir le même intellectron ayant précédé l'impact. Ce processus, qui ne nécessite qu'un centième de seconde, aura lieu après la collision dans l'accélérateur et après que les intellectrons auront envoyé des résultats erronés, soit dans la chambre à bulles, soit sur les pellicules d'appareils photo utilisées dans les accélérateurs.
Quelqu'un demanda encore. Est-il possible que les terriens parviennent, d'une manière ou une autre, à identifier l'intellectron, puis à le capturer grâce à un puissant champ électromagnétique? Après tout, les protons ont une charge positive.
C'est impossible. Pour identifier les intellectrons, il faudrait que la science terrienne connaisse une soudaine et exceptionnelle avancée dans le domaine de la recherche sur la structure profonde de la matière. Or, si les accélérateurs ont été réduits à l'état de ferraille par l'action de nos intellectrons,
ces recherches ne pourront être menées à bien. Les yeux des chasseurs seront d'abord aveuglés par les proies qu'ils cherchent à traquer.
Les humains pourraient utiliser une technique plus grossière, dit le consul de l'industrie. Construire un grand nombre d'accélérateurs plus rapidement que nous ne fabriquons des intellectrons, et alors il finira par exister des accélérateurs sans intellectrons capables de fournir des résultats corrects.
C'est certainement l'aspect le plus intéressant du projet intellectron, fit le consul de la science, que cette remarque avait réjoui. Monsieur le consul de l'industrie, ne vous inquiétez pas, la fabrication de masse des intellectrons ne ruinera pas l'économie du monde de Trisolaris, car nous n'aurons pas besoin d'agir ainsi. Nous créerons peut-être encore quelques intellectrons, mais peu. En réalité, deux seuls suffisent, car les intellectrons sont multitâches.
Multitâches ?
C'est un vieux terme technique appartenant au vocabulaire des anciennes séries d'ordinateurs. À l'époque, l'unité centrale de traitement d'un ordinateur était uniquement capable de réaliser une seule tâche à la fois, mais en raison de sa rapidité d'exécution et des interruptions de l'ordonnanceur, notre perspective limitée nous donnait l'impression que l'ordinateur menait en même temps de front plusieurs programmes. Comme vous le savez, les intellectrons se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette échelle, la Terre est en fait minuscule. Si les intellectrons sont capables de patrouiller à cette vitesse dans les différents accélérateurs de particules de la planète, c'est, vu de la perspective des terriens, comme s'ils se trouvaient en même temps dans chaque accélérateur et qu'ils pouvaient provoquer simultanément des résultats erronés dans chacun des appareils. Nous avons calculé que chaque intellectron pouvait être capable de contrôler parallèlement jusqu'à 10 000 accélérateurs de haute énergie. À l'opposé, les humains ont besoin à l'heure actuelle de 4 ou 5 années avant de terminer la construction d'un accélérateur de ce type. De plus, étant donné la situation économique et les ressources de leur planète, il est absolument inenvisageable qu'une construction massive d'accélérateurs soit mise en route. Bien entendu, ils pourraient élargir la distance existante entre leurs accélérateurs en installant sur les autres planètes de leur système. Cela perturberait effectivement le fonctionnement multitâche des intellectrons. Mais cela leur prendrait énormément de temps, et nous aurions le temps de créer 10 autres intellectrons, voire plus. De plus en plus d'intellectrons se promèneront donc dans le système solaire qui, même assemblés, ne feront pas la taille d'un milliardième de bactéries. Ceux-ci empêcheront pourtant à jamais les physiciens terriens de pouvoir ne serait-ce qu'entrevoir les secrets de la structure profonde de la matière. Que ce soit dans 450 ans ou dans 450 millions d'années, la maîtrise humaine du monde microscopique se limitera donc aux objets de moins de 5 dimensions. La technologie et la science de la civilisation terrestre n'arriveront jamais à faire de percées fondamentales dans ce domaine, et les terriens stagneront à un stade primitif de la science. La science sur Terre sera complètement verrouillée, et ce verrou sera si résistant que les humains ne seront jamais capables de le desserrer par leurs propres moyens.
Voilà qui est extraordinaire. Je vous demande pardon d'avoir mis en doute le projet Intellectron,
s'excusa platement le consul de la guerre.
Dans les faits, il n'existe actuellement sur Terre que 3 accélérateurs permettant d'obtenir des résultats significatifs dans ce domaine. Après leur arrivée sur Terre, Intellectron 1 et Intellectron 2 seront donc presque inactifs. Mais pour pouvoir profiter pleinement de leurs capacités, nous leur assignerons d'autres tâches que la simple perturbation des résultats des expériences de collision dans les accélérateurs. Ils deviendront par exemple nos principaux assistants techniques pour la réalisation du plan Miracle.
Les intellectrons pourront produire des miracles ?
C'est en tout cas comme cela que le percevront les humains. Tout le monde sait que les accélérateurs à haute énergie utilisent parfois des pellicules photo sur lesquelles les particules laissent des traces lorsqu'elles les traversent. C'est l'une des méthodes qui a autrefois permis aux archaïques accélérateurs humains de détecter des particules individuelles. Quand un intellectron passera à travers la pellicule, il laissera sur celle-ci un point lumineux,
Si les intellectrons passent et repassent à travers cette pellicule, ils pourront connecter ces points et former des lettres ou des nombres, voire des images, comme s'ils faisaient de la broderie. Ce processus peut être rapide, bien plus rapide que la vitesse du développement de la pellicule d'un appareil photo humain. Par ailleurs, les rétines humaines étant sensiblement les mêmes que celles des trisolariens, nos intellectrons pourront utiliser la même technique pour projeter sur leur rétine des lettres, des chiffres ou des images. Si ces banals petits artifices ont déjà pour effet de déstabiliser et d'effrayer les humains, un grand miracle suffira à faire mourir de peur ces misérables vermines. Les intellectrons auront le pouvoir de faire clignoter devant leurs yeux le fond diffus cosmologique.
Ce prodige fera même frissonner mes scientifiques. Comment est-ce possible?
C'est simple. Nous avons programmé sur la surface de l'intellectron un logiciel de déploiement bidimensionnel. Une fois passé en deux dimensions, l'intellectron pourra envelopper la planète Terre comme une membrane. Ce logiciel sera également en mesure de rendre cette membrane transparente. Mais le degré de transparence pourra être réglé sur les fréquences du fond diffus cosmologique. Naturellement, l'intellectron pouvant se déployer dans toutes les dimensions existantes, il pourra dans le futur être à l'origine de miracles encore plus impressionnants. Nous sommes d'ailleurs en train de développer un logiciel dans ce sens. Mais les miracles dont je viens de parler suffiront largement à créer une atmosphère viciée dans les systèmes de pensée scientifique humains. Ainsi, nous nous servirons du plan miracle comme moyen de dissuasion pour stopper les autres progrès scientifiques terriens n'appartenant pas au domaine de la physique.
Une dernière question. Pourquoi ne pas avoir envoyé ensemble les quatre intellectrons vers la Terre?
Les phénomènes quantiques restent valables même si les quatre intellectrons sont aux deux extrémités de l'univers. Leur corrélation reste opérationnelle. Si nous avons conservé intellectron 3 et intellectron 4 ici, c'est parce qu'ils pourront recevoir instantanément les informations que leur enverront depuis la Terre intellectron 1 et intellectron 2. Nous pourrons donc ainsi mener une surveillance en temps réel de la Terre. En outre, la formation d'intellectrons nous servira pour communiquer sans décalage avec les membres des forces aliénées de la civilisation terrienne.
« Vous pointez quelque chose d'important, » dit le chancelier en lui coupant la parole.
« Avec ces intellectrons, le monde de Trisolaris révélera aux humains ses véritables intentions à l'égard de la civilisation terrienne.
Nous allons donc révéler aux humains que la flotte trisolarienne les empêchera de procréer et, en définitive, les fera disparaître de la surface de la Terre ?»«
Oui. Une telle stratégie pourra avoir deux conséquences possibles. » La première, c'est que les terriens abandonneront tout et se prépareront à une guerre ultime. La deuxième, c'est que la peur et le désespoir plongeront leur société dans le déclin et l'effondrement. Au vu des analyses qui ressortent des documents reçus jusqu'à ce jour concernant la civilisation terrienne, je crois que la seconde des hypothèses est la plus probable.
Sans que personne s'en soit rendu compte, le soleil, qui venait tout juste de se lever, avait de nouveau disparu derrière l'horizon. L'aube était devenue le crépuscule. Une nouvelle ère chaotique commençait dans le monde de Trisolaris.
Tandis que Iwanji lisait ses informations sur la civilisation trisolarienne, une réunion importante se tenait au même moment au centre d'opérations militaires, où une investigation préliminaire était menée sur le contenu des documents capturés lors de l'opération Sitar. Avant que la réunion commence, le général Chang Weizi annonça
« Camarades, je vous demande votre attention. La réunion qui va se tenir ici est peut-être surveillée par des intellectrons. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun secret. »
Tandis qu'il prononçait ces mots, le monde autour d'eux paraissait le même que ce qu'il avait toujours été. Derrière les rideaux dansaient les ombres des arbres d'été. Mais dans les yeux de tous ceux qui étaient présents, le monde n'était plus comme avant.
Ils sentaient maintenant une paire d'yeux braqués sur eux où qu'ils aillent, et sous ce regard, le monde n'avait plus nulle part où se cacher. Ce sentiment les suivrait toute leur vie et même leurs descendants ne pourraient s'en débarrasser. Les hommes allaient vivre de longues années avant que leurs esprits soient en mesure de s'adapter à cette étrange réalité. 3 minutes précisément après la prise de parole du général Chang Weizi, le monde de Trisolaris communiqua pour la première fois avec des humains n'appartenant pas au groupe rebelle de l'OTT. Après quoi, ils coupèrent toutes les communications qu'ils avaient avec les adventistes et pour le restant de la vie de tous les participants à cette réunion, Trisolaris n'envoya plus jamais d'autres messages à la Terre. Tous ceux qui se trouvaient dans le centre d'opération militaire virent s'afficher le message devant leur rétine, comme Wang Miao avait vu s'afficher le compte à rebours. Le message clignota à peine 2 secondes avant de s'effacer, mais tous avaient pu lire clairement ce qui était écrit. Une phrase toute simple. « Vous êtes de la vermine. »